Mon épouse et moi vous rendons visite ce matin. Merci pour l'invitation que vous nous avez adressée, pour la confiance dont elle est cette invitation, l'expression. Ce n'est évidemment pas la première fois que je rends visite à votre église, mais c'est la première fois que j'y viens en tant que retraité. Et que je ne suis pas porteur des messages fraternels de l'église baptiste de la rue de Sèvres, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de servir pendant quelques années. Pour une raison très simple, c'est que cela fait maintenant plus de 2 ans que ma femme et moi habitons dans la région d'Orléans et que nous n'avons plus que quelques contacts, quelques rares contacts avec notre église de cœur, quelques contacts, quelques rares contacts, mais ô combien heureux. Je ne peux donc que vous apporter nos salutations et vous dire à quel point vous nous êtes chers et vous nous l'avez été peut-être tout particulièrement ces dernières semaines, alors que plusieurs familles des vôtres passés par l'épreuve. Nous avons pensé à vous, prié pour vous et continuons de le faire. Alors, vous est-il déjà arrivé de désespérer ? Durement éprouvé, vous vous attendiez à ce que Dieu se manifeste et vous arrache à votre triste condition. Et Dieu n'a pas bougé. Vous l'avez appelé à l'aide, mais en vain. Vous avez commencé alors de douter jusqu'au jour où vous vous êtes senti sombré. Si cette douloureuse expérience vous rappelle quelque chose, eh bien sachez que vous n'êtes pas un cas à part. D'autres, et non des moindres, ont connu pareille dérive, et jusqu'au plus grand. Jérémie, par exemple. Jérémie, l'immense prophète, si grand qu'on le présente parfois comme un type de Jésus. Eh bien, Jérémie a connu des périodes de désespoir et de désespoir absolu. Un livre en témoigne dont le titre est révélateur, Lamentation. Pourquoi Lamentation ? Parce que écrit dans les larmes par un géant de la foi brisé. Bref, rappel historique. Nous sommes en 587 ou 586 avant Jésus-Christ. Pour avoir cru assurer sa protection en s'alliant à l'Égypte, Tyr, Ammon et Édom, Jérusalem est tombée. Tombée aux mains de l'ennemi babylonien. Et les troupes de Nabucodonosor l'ont soumise à un véritable sac. Son temple a été incendié, ses fortifications démantelées et plusieurs centaines de ses citoyens déportés une fois de plus. La ville et sa province sont proprement dévastées, d'où la déchirante complainte de Jérémie que nous trouvons au tout début des Lamentations. Elle est assise en solitaire, cette ville si peuplée. Elle est pareille à une veuve. Elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces, la voilà maintenant atteinte, astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Juda est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations, sans y trouver de repos. Tous ses persécuteurs l'ont rattrapé au beau milieu des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Pourquoi ? Pourquoi pareille déchéance ? Frappant une cité jadis élue de Dieu. Réponse du prophète, chapitre 1, verset 5, à cause du grand nombre de tes transgressions. C'est pourquoi, écrit-il, l'Éternel l'a plongé dans le chagrin. C'est que Dieu aussi est un Dieu jaloux, qui ne peut céder sa gloire à personne et qui peut se montrer terriblement violent à l'encontre de ceux qu'il a tendrement aimés et qui lui ont retiré leur confiance, quand ils ne se sont pas purement et simplement retournés contre lui. Un rappel nécessaire, me semble-t-il, pour une génération comme la nôtre qui, lorsqu'elle songe encore à Dieu, aime à se le figurer si foncièrement doux qu'il en serait devenu totalement inoffensif. Erreur, grossière erreur. Si Dieu aime à se présenter comme un trésor de grâce, il lui arrive aussi d'apparaître en feu dévorant. Qu'ainsi chacun d'entre nous ne se le tienne pour dit, mieux vaut ne pas le provoquer, par exemple, en accordant à un autre ou à autre chose qu'à lui-même l'attention, l'attachement et la confiance qu'il est seul à mériter pleinement. Mais revenons à la douleur de Jérémie, telle qu'exprimée dans ses lamentations, et plus particulièrement en son troisième chapitre, élégie d'une tristesse et d'une poésie bouleversantes. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 1. « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres. » Comme ceux qui sont morts depuis longtemps, il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies, il m'a mis en pièces, il a fait de moi un homme dévasté, il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie, à longueur de journée je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a enivré d'absinthe, il a cassé mes dents avec des cailloux, il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Parole de Jérémie, élu de Dieu, prophète hors pair, parangon de courage et de foi. Étonnant, non ? Étonnant. Et pourtant, la preuve est là. Jérémie aussi, Jérémie déjà, a connu la désespérance. Un désespoir extrême même. Reprenons, si vous le voulez bien, brièvement son témoignage. Qu'il parle en son nom propre ou qu'il se veuille l'interprète d'un dernier carré de fidèles, importe peu. Le fait est que tout Jérémie qu'il est n'est pas seulement consterné, il est abattu, brisé, anéanti. Et il y a de quoi. Ayant choisi de se considérer comme solidaire de ses concitoyens, le Seigneur, son Dieu, lui a fait connaître le bâton de sa fureur. Verset 1. L'a frappé dans sa chair. Verset 4, l'a comme emmuré dans la douleur, de façon à ce qu'il ne connût plus le moindre répit. Verset 5, verset 15, l'a plongé dans les ténèbres. Verset 6, le fait subir le supplice babylonien de l'enfermement, lui assurant ainsi une fin prématurée. Verset 7, verset 9, s'est comporté à son égard comme un ours ou un lion. Verset 10, l'a mise en pièces, versets 11 et 16, l'a criblée de flèches, versets 12 et 13, l'a exposée enfin à la risée du peuple, verset 14. pour une sanction, c'est une sanction. Mais il y a pire encore. Pire ? Oui, pire. Bien pire même, le Seigneur n'entend plus ses prières. Verset 8, « J'ai beau crier et implorer du secours, se lamente Jérémie, il tient ma prière enfermée. » Ou comme le rend la Bible de Jérusalem, « Quand même je crie et j'appelle, il arrête ma prière. » Pour le fidèle, il n'est pas d'expérience plus désespérante que celle-ci, prier et se heurter à l'insoutenable silence de Dieu. Adresser un appel d'urgence et lire sur son écran, votre correspondant ne répond pas, ne répond plus, est désormais injoignable. L'épreuve est alors extrême et le désespoir qu'elle suggère, qu'elle génère, abyssal. Jérémie en témoigne ici, dont la déréliction, douleur, préfiguration de celle absolue, elle, de Jésus sur la croix, est terrifiante. Versets 17 et 18, je cite, « Tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Alors j'ai dit, « Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Et la fin du verset 20, « Je sombre, je coule. » Je coule. Il n'est pas impossible donc qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous touchions parfois au fond. Pour autant, faut-il que nous tirions de telle situation la conclusion que Dieu nous a abandonnés. Non, bien sûr. Par pour qui, à l'oreille du fidèle, le silence de Dieu n'est jamais absolu. Quand bien même elle seule, cette voix nous parviendrait, elle est toujours perceptible, qui nous promet, et je cite ici le prophète Ésaïe, chapitre 49, les versets 15 et 16, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté ? À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne l'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Et sans doute est-ce cette voix, ou une voix semblable que Jérémie perçoit ici et qui provoque en lui un sursaut exemplaire. Nous avons parlé d'un désespoir extrême. Parlons maintenant d'un sursaut exemplaire. Verset 21 d'abord, je cite, « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Ou comme le rend la Bible de Jérusalem, « Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. » Jérémie était comme submergé par le désespoir, et voici qu'il se reprend, qu'il se secoue même. Ce murmure divin, « Non, Jérémie, je ne t'ai pas oublié. Comment le pourrais-je ? J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. » Ce murmure divin, sa foi l'a détecté au cœur d'un silence d'autant plus insoutenable qu'il semblait absolu, qu'il semblait définitif. Et c'est comme s'il se reprochait maintenant de s'être laissé aller un peu vite à la désolation et que se reprenant vigoureusement, il s'imposait, plutôt que de garder le regard fixé sur le spectacle affligeant d'une déchéance pathétique, de lever les yeux, d'oublier pour l'heure sa misère et celle de son peuple, le temps, juste le temps, de se remémorer ce qu'il sait de ce Dieu à jamais engagé à son côté, et que ses circonstances adverses avaient fini par lui voiler. « Voici, tranche-t-il, ce que je veux, méditer pour reprendre espoir. » Méditer pour reprendre espoir. Un acte de volonté, donc, qui pour nous vaut exemple. Les épreuves en particulier ont au fait de nous accabler au point qu'il nous arrive, à nous aussi, de verser lentement dans une forme d'amnésie spirituelle. prompte à faire de nous des hommes et des femmes désabusés, abattus, voire proprement désespérés. Et si, pour reprendre espoir plutôt que de baisser les bras et nous abandonner alors à la mélancolie, au chagrin, à la désolation, nous décidions, comme Jérémie, de nous ressaisir au contraire et de lever à notre tour les yeux et avec lui, Jérémie, de nous ressouvenir de tout ce que nous savons nous-mêmes de Dieu, de sa personne en particulier, telle que la dessinent ses perfections. Il y a tout lieu de penser qu'alors notre propre métamorphose ressemblera étrangement, elle aussi, à celle du prophète, lequel, aussitôt après qu'il s'est vigoureusement imposé un temps de recueillement, de méditation et de contemplation, a retrouvé le vrai visage de Dieu et s'en est trouvé immédiatement réconforté, revigoré, ragaillardi. Reste à savoir ce qu'il a vu et qu'il a à ce point requinqué. Et nous touchons là à notre troisième chapitre, une vision décisive, une vision décisive. Décisive au sens où elle emporte l'adhésion du prophète et met fin à son tourment. Quelle est cette vision ? Celle d'un Dieu à la fois incroyablement bon et fidèle. Verset 22 et début du verset 23 d'abord, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Fin du verset 23 ensuite, « Que ta fidélité est grande !» Reprenons un à un maintenant les différents éléments de ce qui relève d'une véritable déclaration de foi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, le terme qu'a retenu Jérémie, bonté, renvoie à l'une des perfections les plus lumineuses de l'être divin, la loyauté. Et plus particulièrement sa loyauté à l'égard de celles et ceux avec qui il a conclu un pacte, une alliance, vous et moi donc, dans la mesure où nous appartenons à ce peuple hautement privilégié auquel il s'est lié un jour par une alliance, scellée par le sang de Jésus, j'ai nommé l'Église. Mais ce terme est au pluriel dans notre texte. Nous nous concluons que ce que le prophète nous invite ici à nous remémorer est moins la loyauté en elle-même de l'Éternel que ses manifestations répétées dans la vie de ses protégés. Et que nous dit-il de ces manifestations ? Qu'elles ne sont pas épuisées. Et ce témoignage est essentiel. De même que Jérémie a pu être décontenancé par le silence de Dieu, de même il nous arrive d'être déstabilisé par l'absence prolongée de preuves de sa grâce. Dieu se serait-il éloigné ? Dieu nous aurait-il abandonné ? Non, tranche Jérémie, ses bontés ne peuvent pas s'épuiser. Elles sont par essence inépuisables. Attendez seulement, faites preuve d'un peu de patience et vous en reverrez bientôt les marques rassurantes. Oui, mes amis, patientons. Il se peut que nous peinions ce matin, que nous peinions à voir les marques de sa grâce et que nous en soyons à nous demander « Où est mon Dieu ?» Mais ô les cœurs, ces marques sont là, présentes. Et si nous ne les voyons pas clairement aujourd'hui, elles seront le sujet de notre joie demain. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Pas plus que ses compassions ne prennent fin. Seconde partie du verset 22, ses compassions ne prennent pas fin. L'accent est mis ici sur l'amour de Dieu entoure toutes celles et tous ceux avec qui il s'est lié de façon irrévocable. un amour unique, tendre et riche en bonté, qui ne s'irrite pas facilement, mais sait faire preuve de compassion et surtout aime faire grâce. Aime pardonner, aime effacer, aime oublier. Mais on notera ici encore que le mot retenu est au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'il en va de l'amour de Dieu comme de sa loyauté. C'est par ses manifestations infiniment variées que nous le percevons. Ce qu'il nous faut donc nous imposer régulièrement de faire, c'est d'en repérer dans nos vies les marques discrètes le plus souvent, mais si précieuses pour celles et ceux dont le regard a été aiguisé par la foi. Et que nous dit cette fois Jérémie de ces expressions polychromes de l'amour incomparable dont Dieu a choisi d'entourer les siens, dont Dieu a choisi de nous entourer ? Elles ne prennent pas fin. Littéralement, elles ne connaissent pas de limites. Elles sont infinies, elles sont éternelles. Prodigieuse assurance, non ? Non, mes amis, non. L'amour de Dieu, cet amour dont il nous a donné d'entrevoir la démesure à la croix, cet amour ne saurait faiblir, encore moins disparaître. Ni les grandes eaux, pour reprendre la métaphore du poète, ni les fleuves n'en éteindront jamais les ardeurs. J'ai cité le Cantique des Cantiques, chapitre 8. Et Jérémie est bien placé pour le savoir, à qui l'Éternel déclara un jour, Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Plaise à Dieu que dans les moments d'angoisse, de doute, voire de désespoir qu'il nous arrive de vivre, et il nous arrive d'en vivre, nous fassions le bon choix. Lever les yeux et dans le calme et la confiance, méditer ces vérités. Et comme le prophète, reprendre alors espoir. Mais il y a plus encore, et j'en arrive au début du verset 23, elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Elle, oui, les marques de la bonté et de l'amour de Dieu. Elle se renouvelle chaque matin. Tel le soleil qui ne manque jamais de s'élever dans le ciel, elles surgissent chaque jour à nouveau, répandant leur salutaire clarté dans nos cœurs assombris. Que celui qui a des yeux regarde bien. Bien avant Jérémie, Ésaïe, que je cite à nouveau, l'avait compris, qui priait, « Éternel, fais preuve de grâce envers nous. Nous comptons sur toi. Sois notre force chaque matin et notre salut lorsque nous sommes dans la détresse. » Chaque matin. Mais il y a plus ici qu'une mise en valeur du retour attendu, des manifestations de la loyauté de l'amour de Dieu. Est également suggérée leur parfaite adéquation aux besoins quotidiens de ceux qu'il chérit. Ces grâces ne sont jamais définitivement suffisantes, il les renouvelle en fonction à la fois des défis qui s'imposent à nous jour après jour et de notre dépendance de lui. D'où la nécessité pour nous de retourner à lui chaque matin la main tendue. Chaque matin la main tendue. Mais avec cette assurance que nous repartirons riches, riches de ressources toutes fraîches, riches de ces ressources toujours neuves qui nous permettront de vivre le jour qui vient d'une manière qui l'honore, qui le glorifie, qui le réjouisse. Oui, les marques de sa grâce, c'est un peu comme la manne dans le désert, une sorte de pain quotidien, descendant chaque nuit avec la rosée, suffisant pour la journée, mais pour la journée seulement, impossible d'en faire une provision pour le lendemain. Et qu'il fallait donc retourner ramasser chaque matin au lever du jour. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et nous demande, et ne demande qu'à nous l'accorder, mais un jour à la fois, un jour à la fois. Ô, puissions-nous dès le réveil le prier donc de pourvoir en fonction de ce qu'il sait nous être nécessaire et selon la richesse de sa grâce. Avec cette assurance qu'il exaucera notre prière, jour après jour, à sa manière, mais fidèlement. Je conclus, c'est Jérémie lui-même qui nous offre les termes de cette conclusion, fin du verset 23. Que ta fidélité, ô Dieu, est grande. Que ta fidélité, ô Dieu, est grande. Oui, que sa fidélité est grande. Sa bonté s'élève jusqu'au ciel, chantait déjà David. Sa fidélité atteint les nuages. Une vérité largement attestée et comme redécouverte par Jérémie au moment même où le désespoir le gagne et menace de l'engloutir. Une vérité à laquelle nous pouvons aujourd'hui nous accrocher, nous agripper, nous cramponner, toutes les fois en particulier, que secouée par je ne sais quelle tempête, extérieure ou intérieure, et nous heurtant à l'insoutenable silence de Dieu, nous commençons de douter et, comme le prophète, de sombrer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et c'est à cette fidélité divine imprescriptible, inaltérable, indéfectible, et à elle seule, que nous devrons toujours d'espérer encore et encore, d'espérer toujours, alors même que tout serait ténèbres autour de nous, espérer encore, espérer toujours. C'est à cette fidélité toujours jeune de Dieu, et elle seule, que nous devrons jusqu'au bout de croire que le meilleur est à venir, le meilleur est à venir. Et ce faisant, comme Jérémie toujours, de reprendre espoir. Psaume 30, verset 6. Au soir, la visite des larmes. Au matin, les cris de joie. Amen.